Vous écoutez RTL.
Si nous avions tué les randonneurs du col Dyatlov, on aurait tout de suite été en prison. À l'époque, avec l'Union soviétique, ça ne plaisantait pas. Les militaires ont classé l'accident, ça les arrange de garder cette histoire secrète.
Bonsoir, c'est le plus grand mystère criminel de la Russie et l'un des plus grands au monde aussi. L'énigme du col Dyatlov, tout au nord de la Sibérie. Il y a exactement 62 ans, une nuit de février 1959, 9 randonneurs russes, des étudiants, trouvaient la mort dans ce coin désolé, dans des circonstances jamais élucidées à ce jour. Une scène de crime des plus barbares, des victimes découvertes avec d'horribles blessures, 7 jeunes hommes et 2 jeunes femmes qui manifestement ont fui un danger imminent et qui sont partis pieds nus dans un mètre de neige. De quoi ou de qui ces étudiants russes ont-ils eu peur? Les théories vont se multiplier pour expliquer l'inexplicable. Un massacre gratuit. Le secret défense entourant pendant de longues années ce drame ne fera que renforcer les fantasmes, favorisant l'émergence des plus extravagantes théories. L'année dernière, le procureur général de Russie a rouvert l'affaire du col Dyatlov, à la demande notamment des familles, des victimes qui n'ont jamais cessé de s'interroger. La justice a alors promis que toute la lumière devrait être faite sur cette sinistre tragédie. Avec nos invités ce soir qui connaissent parfaitement ce dossier, nous allons reprendre la route du col Dyatlov pour aller voir si enfin les fantômes des 9 randonneurs peuvent parler. Ce 23 janvier 1959, 10 étudiants de l'Institut Polytechnique de Yekaterinbourg, dans l'Oural, sont sur le pied de guerre pour un projet qu'ils ont longuement préparé. Une randonnée à pied, à raquettes et à ski sur un versant du Kolatsiaki, une montagne pas très haute, un peu plus de 1000 mètres, dont le nom signifie « la montagne des morts ». C'est un jeune étudiant de 23 ans. Igor Dyatlov, qui donnera son nom à cet endroit tragique, le col Dyatlov, qui a tout organisé. Le paysage en cette saison est lourdement enneigé, mais la météo ne s'annonce pas forcément capricieuse. L'expédition ne peut que être formatrice pour ces étudiants destinés à des carrières scientifiques. Le groupe compte 8 garçons et 2 filles, tous et toutes sont jeunes, en excellente condition physique, habitués aux efforts sportifs et aguerris aux longues marches. Ils sont parfaitement équipés, ne manquent ni de vivres ni de vêtements chauds. L'ascension proprement dite de la montagne ne va commencer que les 27 et 28 janvier. Les étudiants de l'Institut Polytechnique sont partis pour 14 jours au nord de l'Oural, dans la région de Sverdlovsk. Ici, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés. Cette contrée est quasiment inhabitée, sauf par les Mansi, une ethnie locale à laquelle l'État soviétique a accordé une large autonomie et qui dispose de quelques hameaux. Le 28 janvier, l'un des membres de l'expédition, Yuri Yudin, tombe malade. Il ne peut plus avancer. Il va rester dans un village de la vallée où il sera soigné. Il ne reverra plus jamais ses camarades qui, eux, repartent vers les contreforts de la montagne des morts. Le 31 janvier, l'expédition attaque véritablement son ascension. Jusque-là, les étudiants ont avancé d'un bon pas et sans problème majeur, ainsi qu'en attestent les journaux de bord et des clichés retrouvés dans un appareil photo. Des sacs de vivres sont entreposés en route sous des arbres en prévision du voyage retour. Le 1er février, les étudiants sont à environ 25 km d'Otorten, l'objectif qu'ils se sont fixé. Ils progressent en direction du col, mais les conditions météorologiques se gâtent. Le blizzard souffle et désoriente le groupe qui perd momentanément le cap. Pas très grave, les randonneurs sont assez expérimentés pour s'en apercevoir et éviter de se perdre. Ce 2 février, pourtant, ils prennent une étrange décision. Ils vont décider de dormir sur la pente de la montagne alors qu'ils n'avaient tout le temps pour aller se mettre à l'abri dans une forêt toute proche, à moins d'un kilomètre. Ici, ils sont exposés à tous les vents et à tous les dangers. Personne ne sortira vivant de cette nuit. Le groupe ne va plus donner de nouvelles, ils n'ont aucun moyen de télécommunication. Leurs familles vont donner l'alerte et prévenir les autorités, les secours vont se mettre en route sans se douter du spectacle qui les attend. Il était prévu que Igor Dyatlov, le chef de l'expédition, fasse parvenir un télégramme au club sportif de l'Institut Polytechnique aux alentours du 12 février. mais personne n'a rien reçu. Au fil des jours, les familles des étudiants commencent à s'inquiéter de ce silence. Le président de l'université est sollicité pour prévenir les secours. Le 20 février, une équipe de reconnaissance qui rassemble des étudiants et des professeurs, tous bons skieurs, est mise sur pied. Pour le moment, la police et l'armée ne sont pas mobilisées, elles vont rapidement l'être. Le colonel Ortiukov est alors chargé de l'opération à laquelle il souhaite donner le moins de publicité possible. Les militaires mobilisent 2 hélicoptères. 22 gardiens de prison sont également engagés pour les recherches. Ce qui ne s'appelle pas encore le col Diatlov va devenir un périmètre militaire protégé et interdit aux curieux. Le 23 février 1959, un groupe de militaires est déposé en hélicoptère sur la montagne. 2 jours plus tard, ils trouvent des traces de passage de ski. Le lendemain, 26 février, ils aperçoivent la tente des explorateurs. Elle est toujours debout, personne à l'intérieur. Une tente qui présente d'inexplicables lacérations. Elle a été découpée de l'intérieur, comme si ses occupants avaient voulu se créer une sortie d'urgence, quitter ce lieu en passant au plus vite à travers la toile sans utiliser l'entrée normale. La tente découpée est le tout premier mystère du col Diatlov. Les interrogations ne s'arrêtent pas là. Un militaire note des traces de pas, celles de 7 à 8 personnes qui s'éloignent de la tente pour dévaler la pente sur 1 km. Plus aucune trace après. Détail troublant, il s'agit de traces de pieds nus ou de personnes en chaussettes. Un seul individu portait des bottes. Dans la tente et aux abords de celle-ci, les militaires trouvent toutes les affaires des étudiants. 9 parkas, des paires de skis, des pantoufles, 3 haches, des couteaux, les nécessaires de toilette. Rien n'a été, semble-t-il, dérobé ou emporté. Les premières hypothèses qui faisaient état de voleurs qui auraient pu attaquer le groupe ne semblent pas tenir. La seule conclusion qu'on peut tirer pour le moment est que le groupe a abandonné la tente en proie à une indescriptible panique. Il lui était impossible de rester à cet endroit. Les traces indiquent que les étudiants ont cherché à aller se réfugier dans la forêt toute proche et non pas vers un autre abri intact où ils avaient stocké des provisions, 2 paires de chaussures et même la mandoline de l'un des randonneurs. Le 27 février 1959, après avoir découvert le campement déserté par les randonneurs, les secouristes suivent leurs traces de pas. Vers 11h du matin, 2 d'entre eux repèrent une tache sombre au pied d'un grand cèdre. Il s'agit des restes d'un foyer. À seulement 3 mètres, un premier corps, celui de Yuri Doroshenko, totalement gelé et sans ses habits. Une de ses mains a brûlé. En dessous de son corps, des branches de cèdre. Un 2e corps est à côté dans le même état. L'autopsie conduite le 4 mars montre que Doroshenko est mort d'un traumatisme interne et d'un œdème pulmonaire. L'autre randonneur ne porte pas de chaussures au pied droit. Ses doigts sont déchirés. Il est couvert de sang sur plusieurs parties de son corps. D'autres étudiants étaient sans doute auprès de ce feu. Il semble que certains d'entre eux ont escaladé le grand cèdre pour s'y réfugier ou essayer d'apercevoir un point lointain. Des branches sont cassées. D'autres plus fines ont été coupées avec un couteau qu'on ne retrouve pas. Un 3e corps, celui du chef de l'expédition, Igor Diatlov, est retrouvé à 300 mètres du Grand Cèdre. Son manteau est déboutonné. Il ne porte pas de chaussures, au pied 2 chaussettes différentes, une en laine, l'autre en coton. Un peu plus loin repose l'une des 2 femmes de l'expédition, Zinaïda Kolmogorova. Comme d'autres victimes, le teint de sa peau est excessivement sombre. Elle est plus chaudement habillée que les autres. On retrouve sur elle son argent, 5 roubles, et à la ceinture un masque de protection militaire. L'autopsie précise qu'elle n'a pas subi de violence sexuelle. Un 5e corps est découvert le 5 mars. Les légistes concluent à des morts causées par une hypothermie. Les autorités ne peuvent pas donner d'explication rationnelle au désordre qui règne sur cette scène de crime. Manquent à l'appel les corps de 4 étudiants, sûrement morts eux aussi. Plus de 2 mois plus tard, la fonte des neiges révèle ces derniers cadavres. Ils sont à moins d'une 100 mètres du Grand Cèdre. Ils ont de toute évidence survécu plus longtemps aux membres du premier groupe. Ils sont habillés plus chaudement, même s'ils portent des habits qui ne sont pas les leurs. Peut-être ont-ils emprunté des vêtements de leurs camarades qui avaient succombé. Ces derniers randonneurs s'étaient fabriqués ce qui ressemble à une hutte chute en branche. Le couteau qui a servi à tailler les branches est introuvable. Plus troublant, ces corps-là semblent avoir trouvé la mort dans des conditions très violentes. L'étudiante Ludmila Dubinina a 10 côtes brisées. Ses yeux ont disparu, ainsi que sa langue. 5 côtes cassées et les yeux absents pour un autre randonneur. Un dernier a le crâne fracturé. Tous présentent des blessures internes qui s'apparentent à un choc d'une grande violence, comme si un camion les avait percutés. Leur corps aurait explosé sous la pression. Les autorités russes, soviétiques à l'époque, diligentent une enquête pour faire la lumière sur ce drame. Le problème est que la plupart des indices retrouvés sur place apportent plus de questions que de réponses. De quoi alimenter les plus folles hypothèses. Les autorités soviétiques semblent pressées d'en finir avec cette enquête qui ne fait que commencer. Malgré les interrogations flagrantes, concernant notamment les blessures inouïes découvertes sur la deuxième série de corps, pas question de traîner. Et encore moins de donner la moindre publicité à cette affaire dérangeante. Le rapport établit que les victimes sont mortes 6 à 8 heures après leur dernier repas. Il n'y avait pas, selon les enquêteurs, d'autres personnes que les étudiants sur la montagne au moment des faits. Les empreintes de pas montrent qu'ils sont tous sortis de la tente au même moment et sans être contraints par une tierce personne. L'hypothermie est la cause de la mort. Dès le mois de mai 1959, alors que les derniers corps ont tout juste été retrouvés, l'enquête est déjà close. Le procureur indique qu'aucun signe de lutte n'a été découvert sur les cadavres. Aucun élément ne peut constituer une infraction. Le dossier du col Diatlov est classé sans suite. Avec cette phrase des autorités qui va faire couler beaucoup d'encre, je la cite. « Il convient de considérer que la cause du décès des touristes fut une force spontanée à laquelle les touristes n'étaient pas à même de résister. » Quelle est donc cette force spontanée et irrésistible dont parle la justice russe ? Pas vraiment de réponse, pas non plus d'explication à bien d'autres interrogations. En premier lieu, les blessures mortelles constatées sur les dernières victimes. Le légiste estime que les coups reçus par ses étudiants étaient trop puissants pour être donnés par un homme ou une femme. Trop de pression exercée sur ces corps qui ont été comme comprimés. Pas de réponse non plus à propos des doses notables de contamination radioactive découvertes sur les vêtements des victimes. Les étudiants auraient-ils été irradiés. Des proches des victimes indiqueront que certains corps présentaient une couleur brune inhabituelle lors de leur préparation pour les funérailles. L'enquête ne convainc personne. Du coup, les théories les plus folles vont courir. Il est fait état d'une attaque des Mansi, le peuple qui habite cette région. Les randonneurs se seraient trouvés sur une terre sacrée. Est évoqué un règlement de compte entre services secrets russes et américains, deux étudiants de l'expédition ayant travaillé à Moscou dans un laboratoire développant des programmes militaires nucléaires. Un tir de missile est avancé, tout comme l'explosion d'un ballon sonde qui renfermait un contenu radioactif. Il sera aussi question d'une attaque du Yeti, l'abominable homme des neiges, ou de l'absorption de champignons hallucinogènes qui aurait déclenché une hystérie fatale. En 2014, des chercheurs vont parler de vents violents qui auraient émis des sons à tellement basse fréquence qu'ils auraient été fatals aux randonneurs. L'hypothèse qui revient en boucle est celle de la découverte accidentelle par les randonneurs d'une zone militaire secrète. Ils auraient alors été pris pour cible. Dans tous les cas de figure, trop de questions et pas assez de réponses, trop de doutes et aucune certitude. En 2019, le gouvernement russe décide de rouvrir l'enquête. Il va être question d'une avalanche. Le 1er février 2019, le dossier du col Diatlov est officiellement rouvert. Un magistrat du parquet général de la région fédérale de l'Oural est chargé de faire la lumière sur cette nébuleuse affaire. Les familles des victimes n'ont jamais cessé de dénoncer l'incurie des autorités, des investigations bâclées. Le corps d'une des victimes est exhumé pour des vérifications d'ADN, mais cette opération n'apporte rien. 30 experts sont mandatés pour examiner toutes les hypothèses, y compris celle d'un séisme local ou d'une explosion nucléaire. Au mois de juillet 2020, le parquet général indique qu'une seule explication est officiellement retenue, celle de l'avalanche. Les blessures correspondraient à ce genre d'événement naturel imprévisible. Les randonneurs auraient cherché à s'éloigner de la tente, puis n'auraient jamais retrouvé leur chemin, alors qu'il faisait nuit et que le blizzard soufflait. Malgré cette nouvelle enquête, impossible d'avoir des certitudes à 100% sur ce qui s'est passé la nuit du 2 février 1959 au col d'Yaltrov. Impossible donc d'empêcher de nouvelles théories, même rocambolesques, de circuler tant le doute est solidement installé. En 2013, un haut fonctionnaire russe de la région Oural affirmait que l'armée avait fait pression à l'époque pour que l'enquête soit classée sans suite. Le col d'Yaltrov, une affaire sans témoin, condamnée peut-être éternellement au secret. Merci Philippe Comte et Joanne Gaume d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire du col de Yaltrov, une énigme qui a encore sans doute de beaux jours devant elle, mais c'est le propre finalement des énigmes de ne pas être toujours résolue. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.